Au micro, Renaud Grégoire, bienvenue à Question d'aujourd'hui, cette émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Aujourd'hui, un invité, et j'apprécie vraiment sa présence, Pierre Charland, qui est depuis 2017 ministre provincial des Franciscains du Canada. Il a travaillé en enseignement en paroisse, en pastorat de la santé, mais aujourd'hui, il va nous parler d'un saint que beaucoup de personnes aiment, qui est connu, peut-être le plus connu dans le monde, Saint François d'Assise, parce que bientôt va être souligné le 4 octobre. Et aussi, Saint François d'Assise, eh bien, il nous permet de terminer ce temps pour la création que l'Église souligne du 1er septembre au 4 octobre. Bienvenue, Pierre Charland.
Merci beaucoup, Renaud.
Eh bien, François d'Assise, on le connaît parce que il est très, disons, populaire, parce que nous a laissé un cantique, le cantique des créatures. Et je vais en lire quelques extraits pour que nous puissions parler de lui d'abord avec ce qui est le plus connu. Et ce cantique des créatures, il aurait été transmis, je pense, Pierre Charland, à ses disciples, aux franciscains.
Oui, tout d'abord, mais le cantique des créatures a été, c'est attesté, ça a été écrit de la main de François, de son vivant, puis je vais vous situer un peu les différentes parties du cantique, mais vous savez que c'est le premier poème, si on veut, de langue italienne. Alors, c'est reconnu quand on enseigne la poésie en Italie, bien qu'à l'époque, vous savez, l'Italie, ce n'était pas l'Italie, c'était...
des petits royaumes, de hein?
C'est ça, exactement.
Des petits royaumes, le royaume d'Assise, le royaume de Pérouse, etc.
Tout à fait. François écrivait en dialecte et en latin. Mais le Cantique des créatures est considéré comme une des premières poésies de cette culture italienne.
Je vais lire quelques extraits, merci. Très haut, tout puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur et toute bénédiction. À toi, seul très haut, ils conviennent et nul homme n'est digne de te mentionner. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures, etc. Et là, nous parle du soleil, de la lune, des étoiles, du frère vent, de sœur eau, de frère feu et mère terre. Et il va terminer par la mort. Et on va en reparler tout à l'heure. Ouais. Et aussi Christian Bobin, dans son fameux livre, qui l'a mis vraiment, cet auteur, qui le très bas. C'est drôle parce que François dit le très haut, mais Christian Bobin va titrer son livre sur François d'Assise, le très bas. Et nous dit ceci, et je cite Christian Bobin, en parlant de François. François parle aux hirondelles et s'entretient avec les loups. Il entre en réunion avec des pierres et organise des colloques avec des arbres. Il parle avec tout l'univers, car tout a puissance de parole dans l'amour, car tout est doué de sens dans l'amour insensé.
Wow.
Mais Pierre Charland, vous voulez nous faire découvrir quelque chose de nouveau sur ce cantique des créatures.
C'est-à-dire, on a la chance d'avoir, les biographes ont situé la rédaction du cantique. Alors, on sait quand ça a été écrit. Et puis, c'est là que c'est un peu étonnant, parce que parfois, on lit le cantique, puis on se dit, ah, mais oui, c'est beau, on pense à François, le chemin du soleil, ce beau film, je sais pas si vous l'avez vu, Renaud, mais...
J'ai eu la chance de le voir, ce film de Zeffirelli, dans les années 70.
Exactement.
Alors, révolutionnait le style aussi.
Oui, puis c'était très beau, c'est romantique. Alors, on s'imagine le cantique du soleil, c'est François en admiration béate devant la nature. Bon. Oui, il y a peut-être un peu de ça, mais ce qu'il faut dire et ce que les biographes nous révèlent, c'est qu'en fait, ce cantique est écrit après l'une des nuits les plus obscures de la vie de François. Alors d'abord, c'est assez tard dans sa vie qu'il écrit le cantique. François est très malade des yeux. En fait, il cumule toute une série de maladies. Ses yeux sont tellement sensibles qu'il arrive à peine à tolérer un peu de soleil. Et puis... les biographes racontent qu'il y a une nuit vraiment très sombre pour François. Il remet tout en question, il se sent seul, abandonné, ne sent pas la présence de Dieu. Et en gros, François a l'impression que sa vie est un échec.
Il n'en voit
pas le sens, il se dit « qu'est-ce qu'il va rester de mon passage sur terre, etc. » Vraiment une nuit spirituelle, si on veut. Et c'est au matin... après cette nuit que le biographe nous raconte que François est habité tout à coup d'une paix, il y a comme une lumière en lui et il écrit les strophes du cantique où il rend gloire à Dieu par l'eau, etc., les étoiles, le soleil, la lune, etc. Donc, il a trouvé la paix, la liberté. Mais ce qu'on dit peu, et je pense que ce qu'il faut dire, c'est que c'est le terme d'un chemin spirituel qui a été difficile, où la souffrance est présente, le doute est présent, etc., etc.
Effectivement, c'est pas comme ça qu'on imagine que François a écrit ce cantique des créatures. Et pourtant, il va terminer avec une affirmation qui est assez audacieuse, je dirais. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle. Alors là, il est en train de nous pister sur quelque chose. Comment comprendre aujourd'hui que la mort corporelle peut être une sœur? C'est assez audacieux.
Alors, je disais que les premières strophes où il y a la lune, le soleil, l'eau, le vent, etc., bon, c'est écrit au terme d'une nuit spirituelle. C'est vers la fin de sa vie, mais ce qu'il faut savoir, donc, il écrit le cantique en trois temps. Après ses louanges par les créatures, il y a des strophes, et vous allez les reconnaître, qui portent sur le pardon. Et ça, c'est écrit dans un deuxième temps, parce qu'il y a un gros conflit entre le maire et l'évêque d'Assise. C'est en train de devenir une affaire publique, tout le monde est impliqué là-dedans, c'est pénible, ça s'allonge. Et François, voyant ça, va réciter son cantique pour apaiser cette guerre, si on veut, et à la grande surprise, il a ajouté des strophes sur le pardon. Bon. Et dans un troisième temps, mais à ce moment-là, quelques heures avant de mourir, il ajoute les strophes sur notre sœur, la mort corporelle. La boucle est bouclée, la mort est devenue une sœur. L'ombre est intégrée, toutes les ombres de sa vie, de son cheminement spirituel. François est habité d'une paix que rien ne va lui enlever. Et en fait, le cantique se termine avec la vie de François. Donc, je pense que c'est important de le préciser parce que c'est presque le legs spirituel de toute une vie qu'il y a là-dedans.
Pierre Charland, merci beaucoup de nous faire réaliser ces différentes étapes de rédaction qui reflètent la vie de François, mais c'est très rare qu'on va mentionner la vie, les doutes, l'ombre, les souffrances de François d'Assise, bien qu'on va y revenir tout à l'heure lorsqu'on va parler d'un événement très particulier. Quelle est la pertinence de ce cantique des créatures pour nous aujourd'hui? Outre le fait de l'utiliser pour le temps de la création, pour la louange, pour la création, est-ce qu'on peut l'utiliser justement dans le même contexte que François l'a écrit, c'est-à-dire dans des moments difficiles de doute, de confusion, de guerre, ou si vous nous avez parlé de conflit, là, Assise, est-ce qu'on peut l'utiliser dans ces contextes-là?
Je pense qu'on peut, puis vous savez, en fait, c'est une prière, hein, c'est une louange à Dieu par toute cette beauté et cette merveille qui nous entoure de la création. Et là-dessus, c'est vrai que François, bon, on l'a nommé saint patron de l'écologie, c'est vrai que François nous invite à une expérience spirituelle qui est communion aussi. Donc, communion avec nos frères et sœurs, bon, communion ici, on voit dans une situation de conflit, mais avec la création, qui dit communion, dit accueil, dit respect. Je pense qu'on est dans une crise écologique, il n'y a aucun doute là-dessus. Quel regard est-ce que je pose sur l'eau, l'air, les étoiles, etc.? Quel regard est-ce que je me reconnais lié à ce monde dans lequel j'habite? Et je pense qu'il y a là une invitation à repenser nos liens avec les éléments de la création. Évidemment, François n'est pas quelqu'un qui va, ni avec les gens, ni avec la création, François n'est pas quelqu'un qui va utiliser, instrumentaliser. François va inviter à la relation. Et donc, beaucoup d'écoute, beaucoup d'accueil, beaucoup de respect. Je pense qu'il y a quelque chose de très actuel dans le cantique.
La question d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Pierre Charland, franciscain. La joie parfaite. Alors, François nous pisse sur la joie parfaite. Alors, après le cantique des créatures, nous allons aborder la question, d'abord la joie. Je pense qu'on a fait des pas aussi à remettre à l'ordre du jour, je dirais, la joie dans la vie spirituelle. Parce qu'il y a eu des épisodes, il y a eu des moments, il y a eu des courants, il y a encore des courants qui mettent beaucoup plus l'accent sur le sacrifice, la souffrance. Mais la joie, on l'avait comme mis peut-être sous le boisseau pour prendre une image de l'Évangile. Mais François, lui, il nous le met en évidence. Parlez-nous de la joie. Et en plus, elle est parfaite.
Parfait. Alors, bon, c'est intéressant ce que vous dites, Renaud. D'abord, la joie, on s'entend, ce n'est pas le plaisir, hein? Et la joie, ce n'est pas le bonheur non plus. La joie, c'est autre chose, c'est profond, c'est etc. C'est spirituel, je pense. Écoutez, on pourrait passer 2 jours sur la joie parfaite, mais je veux en dire quand même quelques mots. François nous lègue une histoire qui illustre ce qu'est, selon lui, la joie parfaite. C'est très authentique, c'est une dictée de la bouche de François. On a un manuscrit du 14e siècle, et la trame de fond, si on veut, c'est la question... Où trouver la vraie joie? Où trouver une eau qui va nous abreuver? On sait, hein, on a parlé du plaisir, plein de choses. Il y a des choses qui sont séduisantes, mais qui n'abreuvent pas. Donc, la question, où trouver une eau qui nous abreuve vraiment la joie parfaite? Alors, l'histoire qui est racontée, c'est que François est avec son fidèle compagnon Léon. Et ils sont en chemin entre Pérouse et Sainte-Marie-des-Anges, donc dans la région d'Assise. Et Léon demande à François, « Dis-moi, François, où trouver la vraie joie? » Et alors, et ça peut être très long, mais je vais tout résumer ça, François se met à raconter à Léon toutes sortes de situations. Il dit, « Tu sais, frère Léon, si le roi d'Angleterre, le roi de France, entrait chez les frères mineurs, ce ne serait pas la joie parfaite. Si nos frères étaient les plus grands maîtres des universités de Paris, de Bologne, etc., ce n'est pas la joie parfaite. Si on faisait des miracles à profusion, si on ressuscitait des morts de 4 jours, ce n'est pas la joie parfaite. Si on connaissait tous les secrets de la nature, des astres, etc., ce n'est pas la vraie joie. » Et Léon écoute François, puis il dit, « Mais de grâce, François, dis-moi où trouver la vraie joie. » Et là, ça devient assez étonnant, parce que François décrit, ben, il dit, tu vois, Léon, on est sur la route vers Sainte-Marie-des-Anges, il fait froid, on a faim, il pleut. Si on arrive à la fraternité de nos frères à Sainte-Marie-des-Anges, que les frères ne nous accueillent pas, nous traitent de vagabonds, nous insultent, nous couvrent de coups, toutes sortes de situations difficiles, de non-reconnaissance, de mépris. Et il lui dit, Léon, si on supporte tout ça avec patience, dans un bon esprit, sans perdre notre paix intérieure, voilà la vraie joie. Bon.
Ouh! Ouais. Là, il y a une gymnastique à faire.
Il y a une gymnastique à faire parce que quand on entend ça, on peut se dire, mais c'est doloriste. Qu'est-ce que François est en train de dire? Plus on souffre, plus on est joyeux.
Oui, c'est un peu l'impression que ça laisse, effectivement.
Ah, c'est un peu l'impression que ça laisse. Mais en fait, ce n'est pas ça. Cette histoire un peu étrange et un peu étonnante est en fait très profonde. Saint François est en train de démontrer que le seul chemin qui conduit à une joie parfaite, c'est un détachement de quoi? Des succès religieux, mondains, de nos quêtes d'être admirés, adulés, de toutes ces réponses qu'on attend des autres. Il dit, tu sais, la vraie joie, c'est d'être ancré en Dieu et d'être libre par rapport. Il dit pas que c'est pas excellent que le roi de France, d'Angleterre, etc., qu'on soit les plus grands maîtres de Paris, qu'on ait plein de monde chez les frères mineurs. Tout ça est très bien. Mais est-ce que notre joie est attachée à ça? Et en fait, plein de choses dans la vie de François, on vient de parler du cantique, mais il y a plein d'exemples. En fait, c'est que son ancrage de fond est en Dieu. Alors, je trouve ça très beau. Je pense qu'il y a un message spirituel important pour aujourd'hui là-dedans.
Comment ça peut nous inspirer, effectivement, pour aujourd'hui, alors qu'on est si poussé à être attaché, à avoir des likes sur Facebook, à être reconnu. Ouais, on attend tellement ça. Si quelqu'un nous sourit pas, nous dit pas bonjour, on a l'impression que il se passe quelque chose. Alors juste dans la vie quotidienne, ça arrive des fois qu'on attend une certaine reconnaissance. Ouais. On s'appuie là-dessus. Comment ça peut nous inspirer aujourd'hui?
Trouver une liberté par rapport à ça. Tu sais, moi je trouve ça très très beau, très profond. Puis le danger, on a raconté cette petite histoire de François et de Léon en chemin, puis moi on trouve ça bizarre, puis on se dit ben oui, François donc il est un peu immunisé à la souffrance, mais c'est tellement pas ça. Il est en train de dire il y a de faux chemins de bonheur qu'on prend. C'est sûr qu'on veut des succès etc dans la vie, mais il y a de faux chemins. Mais dis-moi la voie spirituelle que j'ai découverte, c'est vraiment de m'ancrer en Dieu. C'est comme l'eau qui va véritablement me désaltérer, nous dit François, ce n'est pas l'eau des quêtes de succès ou de gloire ou d'adulation, etc. C'est autre chose. Alors, je trouve ça beau pour aujourd'hui.
Oui. Ouais. Pierre Charland, on peut dire que François d'Assise, c'est un peu le spécialiste du détachement, d'abord parce que lui-même, ayant vécu dans une position sociale très, très enviable, on connaît tous cette scène où il va quitter son père, sa famille, il va complètement se dénuder, se détacher, et le détachement, c'est très important pour lui. Comment on peut comprendre ça aujourd'hui, le détachement? Comment on peut être invité à être détaché en lien avec la joie parfaite dont vous venez nous parler?
C'est intéressant, Renaud, ce que vous dites, puis je pense que le mot détachement, nous, on le comprend bien aujourd'hui. À l'époque de François, on utilisait plus probablement le mot pauvreté. Et François nous disait qu'il avait dit qu'il a épousé Dame Pauvreté et qu'il a trouvé la joie. Alors ça, tout de suite, ça peut nous sembler étonnant. Si on s'intéresse pas, si on veut à la vie spirituelle, on se dit, mais comment peut-on affirmer qu'on choisit une vie de pauvreté et qu'on trouve la joie? Parce que on s'entend, la pauvreté subie est une chose désagréable, dont on souffre, des gens manquent de l'essentiel pour se nourrir, luttent pour gagner leur vie, etc. C'est une dégradation, une injustice, et François va lutter contre ça. Mais François épouse Dame Pauvreté. Alors, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est exactement comme vous l'avez présenté, ce que François pointe, c'est un détachement par rapport à quoi? Beaucoup de choses qu'on érige souvent dans nos sociétés en quête sacrée, la richesse, la gloire, le pouvoir, le succès, etc. Et François nous dit, moi, j'ai choisi un autre chemin, celui d'un détachement par rapport à tout ça, hein, et j'ai trouvé la joie. Donc, ça nous renvoie à ce dont on vient de parler, l'épisode de la joie parfaite et le cantique aussi. Et François n'est pas en train de dire que ce détachement est facile, et ça, le cantique nous l'a rappelé. C'est un chemin. Mais il nous dit, ce chemin, je l'ai éprouvé. Il est solide, et oui, il conduit à la paix profonde, au repos en Dieu et à la joie.
Comme laïc, parce que peut-être que dans une communauté religieuse avec le vœu de pauvreté, c'est peut-être plus facile. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus facile. Alors, peut-être que vous pouvez apporter des nuances, mais ouais. Comment les chrétiens ordinaires peuvent, je dirais, s'aligner sur cette vision de François sur le détachement, la pauvreté, alors qu'on a quand même besoin de biens matériels, on a besoin d'une auto, on a besoin de différentes choses pour notre vie quotidienne. Ouais. Comment on peut s'aligner sur cela aujourd'hui, tenant compte de notre contexte aujourd'hui?
Et j'ai le goût de dire là-dessus que c'est pas tellement ça. Oui, les biens matériels, c'est sûr, et puis vous parlez de la voiture, etc., c'est sûr. Mais c'est peut-être moins ça que de voir... À quoi mon cœur est-il attaché? Vous savez, dans la vie de François, toute sa vie, depuis le moment de sa conversion, on connaît l'épisode, le crucifix de Saint-Damien, François revient de la guerre, il a subi une défaite à la guerre, il est très malade, failli mourir, etc. Puis, il y a un retournement chez lui. À partir de ce moment-là, jusqu'à sa mort, François va toujours trouver des lieux isolés, des lieux de retraite, où il va vivre un cœur à cœur avec Dieu. Bon, un de ces lieux-là les plus connus, c'est le mont Alverne, où François va être stigmatisé. Mais je rappelle ça parce que peut-être que pour aujourd'hui, vous parlez des laïcs aujourd'hui, peut-être c'est simplement le rappel, Est-ce que nous nous donnons des rendez-vous avec Dieu pour ouvrir le cœur et faire un peu de ménage? Et le détachement, la pauvreté, c'est de voir peut-être, est-ce qu'il y a des attachements dans ma vie qui m'emprisonnent plutôt que me rendent libre? Est-ce qu'il y a des attachements qui sont en train de prendre toutes mes énergies et puis qui en fait ne me mènent pas là où je voudrais aller? Disons, plus de paix, de liberté, de joie. C'est peut-être plus ça que l'histoire de dire de vivre dans une grande précarité de moyens, ou c'est certainement pas de pointer la misère comme une chose que l'on recherche. C'est, je pense, de trouver un chemin de véritable liberté pour avancer vers une plus grande plénitude spirituelle. François l'a vécu. François et plein d'autres l'ont vécu, mais je trouve qu'il nous pointe un chemin qui est facile à défricher, qu'on comprend aisément.
Père Charlin, le 17 septembre 1224, François reçoit les blessures du Christ. Rappelez-nous qu'est-ce qui s'est passé, ce que l'on sait de cet événement.
Alors oui, François est au Mont Alverne, donc c'est un lieu où François allait pour ses cœur à cœur avec le Seigneur. Et puis François, il faut dire qu'il est, François a évidemment un chemin spirituel profond. François, dans une prière, a demandé à être profondément uni à la vie, aux souffrances du Christ. Alors, il est au Mont Alverne, il est en retrait, il est en prière, et François va effectivement, dans une expérience mystique extraordinaire, recevoir dans sa chair les plaies du Christ, ce qu'on appelle les stigmates. Un autre fait peu connu, mais que je trouve extraordinaire, c'est que, après cette expérience, François écrit une prière qu'il appelle les louanges de Dieu, dans laquelle, ayant fait cette expérience mystique d'une grande proximité à Dieu, il se met à décrire ce Dieu dont il a fait l'expérience. Et puis là, vous connaissez probablement la prière, il utilise plein de noms et qualificatifs pour le décrire. Tu es amour, tu es sagesse, tu es humilité, tu es sécurité, tu es beauté, etc., etc. C'est une prière, en fait, une énumération de noms qui décrivent Dieu. Et François va revenir de cette expérience de stigmatiser avec beaucoup d'humilité. François ne fera jamais, il ne voudra jamais leur montrer ou se vanter de ses stigmates, mais je pense qu'on peut dire que François est revenu de cette expérience avec une union profonde au Christ. Et moi, j'aime croire que, ayant vécu ces blessures du Christ en sa chair, plus que jamais, François est allé vers les plus pauvres, vers les plus blessés, capable de les écouter, de les rejoindre, de les soutenir. Parce que vous savez que dès le début, ça a été les lépreux, ça a été les blessés, ça a été les plus pauvres. Cet homme qui était de l'aristocratie est allé vers les plus souffrants, les plus bons. Et les stigmates, c'est un peu ça, je pense. C'est un peu ça, mais avec le plus d'avoir vécu ce grand amour, cette grande union avec le Christ, ben il est débordant d'amour. Il y a plus de barrière entre lui et ceux qui souffrent. Il y a une grande compréhension, une grande proximité.
Père Charlin, je pense que vous mettez en évidence quelque chose que peut-être on met pas assez en évidence chez François d'Assise. Son engagement avec les plus exclus de la société à ce moment-là. Et le lien que vous faites avec le fait qu'il a reçu les blessures du Christ, c'est parce qu'il n'a pas hésité à aller chez les plus blessés de sa société, les lépreux, des hommes, des femmes, des enfants. Et je pense que cet aspect-là devrait être mis plus en évidence chez François d'Assise. Comment il a vraiment incarné ce texte de Matthieu 25, « J'avais faim, j'avais soif. » J'étais étranger, j'étais malade. Il l'a fait dès le début et n'a pas juste fait que remettre des pierres dans une petite chapelle qu'il avait trouvée, mais ce lien avec les plus exclus de sa société. Et je crois que c'est aussi le chemin qu'il présente aux franciscains, ceux qu'il a rassemblés autour de lui. Quelques mots là-dessus en quelques secondes.
Ben tout à fait. Oui, pour confirmer ce que vous dites, c'est vrai. C'est vrai dès le début, c'est vrai tout au long de sa vie. Et François va lutter avec, à mesure que l'ordre grandit, il y a des toutes sortes de gens qui se joignent à l'ordre. Il y a des gens de beaucoup d'éducation, puis etc. Et François va être un peu démuni par rapport à tout ça parce que il va vouloir qu'on soit petit, qu'on soit humble, qu'on soit avec les plus petits. Alors, comment expliquer que quelqu'un soit à Paris, à l'université, enseigné, puis il va l'intégrer, etc. Mais pour François, la priorité, ça va toujours être nos rois, ceux que nous servons, ce sont, de façon prioritaire, les exclus, les plus démunis, ceux qui sont à la marge. Donc, c'est tout à fait un trait de la spiritualité franciscaine.
Pierre Charlin, en terminant, un souhait, quelque chose que vous souhaitez, que l'on découvre mieux François d'Assise? Qu'est-ce que vous souhaitez pour les gens qui nous écoutent par rapport à François d'Assise?
Ben, cette année, donc, c'est les grands centenaires. On célèbre donc ces 800 ans des stigmates. Je souhaite qu'on redécouvre François. Je souhaite qu'on aille au-delà de la surface. François, vous savez, on est très chanceux. Il a écrit. Il nous lègue, disons, une quinzaine de belles prières, de textes. Je souhaite qu'on aille à la source. Lisons François d'Assise. Lisons ce qu'il nous a écrit. Et je pense qu'on trouve là l'essence de son message.
Et je pense, Pierre Charlin, que c'est à la lecture de François d'Assise que vous avez décidé de suivre cette voie franciscaine.
Bien oui. Il y a 35 ans cette année, hein? 35 ans, puis oui, ça a été pour moi comme une grande révélation. Vous savez, quand on rencontre la voie qui va être la nôtre, là, quand on rencontre son chemin de vie, ben, on est touché, on est bouleversé, puis c'est ce qui m'est arrivé il y a 35 ans. Alors, ben, ouais.
Et François d'Assise continue de toucher, de bouleverser aussi, mais continuons aussi de le découvrir, d'aller au-delà de ce qu'on connaît assez facilement. Et c'est à travers lui aussi que le Christ lance ses appels. Pierre Charlin, merci beaucoup.
Merci à vous, Renaud. Ça a été un plaisir.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de cette émission « Question d'aujourd'hui ». Merci à Yannick Caron de Radio Galilée et Valérian Fournier pour Radio VM. Merci à tous. Au micro, Renaud Grégoire, et à bientôt.